Georges Bernanos, Journal d'un curé de campagne, 8e partie. Évidemment, ma timidité a pris depuis quelque temps le caractère d'une véritable obsession. On ne vient pas facilement à bout de cette peur irraisonnée, enfantine, qui me fait me retourner brusquement lorsque je sens sur moi le regard d'un passant. Mon cœur saute dans ma poitrine et je ne recommence à respirer qu'après avoir entendu le bonjour qui répond au mien. Quand il arrive, je ne l'espérais déjà plus. La curiosité se détourne de moi pourtant. On m'a jugé, que demander de plus? Ils ont désormais de ma conduite une explication plausible, familière, rassurante, qui leur permet de se détourner de moi, de revenir aux choses sérieuses. On sait que je bois, tout seul, en cachette. Les jeunes gens disent « en Suisse ». Cela devrait suffire. Reste, hélas, cette mauvaise mine, cette mine funèbre dont je ne puis naturellement me défaire et qui s'accorde si mal avec l'intempérance. Ils ne me la pardonneront pas. Je craignais beaucoup la leçon de catéchisme du jeudi. Oh, je ne m'attendais pas à ce que l'argot des lycées appelle un « chahut ». Les petits paysans ne chahutent guère. Mais à des chuchotements, des sourires. Il ne s'est rien passé. Séraphita est arrivée en retard, essoufflée, très rouge. Il m'a semblé qu'elle boitait un peu. À la fin de la leçon, tandis que je récitais le subtuum, je l'ai vue se glisser derrière ses compagnes, et l'amen n'était pas prononcé, que j'entendis déjà sur les dalles le clic-clac impatient de ses galoches. L'église vide, j'ai trouvé sous la chaire le grand mouchoir bleu rayé de blanc, trop large pour la poche de son tablier, et qu'elle oublie souvent. Je me suis dit qu'elle n'oserait rentrer chez elle sans ce précieux objet, car Madame Dumouchel est connue pour tenir à son bien. Elle est revenue, en effet. Elle a couru d'un trait jusqu'à son banc, sans bruit. Elle avait retiré ses galoches. Elle boitait beaucoup plus fort qu'avant, mais lorsque je l'ai appelée du fond de l'église, elle a de nouveau marché presque droit. « Voilà ton mouchoir, ne l'oublie plus. » Elle était très pâle. Je l'ai rarement vue ainsi. La moindre émotion l'a fait devenir écarlate. Elle m'a pris le mouchoir des mains, farouchement, sans un merci. Puis elle est restée immobile, sa jambe malade repliée. « Va-t'en, lui ai-je dit doucement. Elle a fait un pas vers la porte, puis elle est revenue droit sur moi, avec un admirable mouvement de ses petites épaules. Mademoiselle Chantal m'a d'abord forcée. Elle se levait sur la pointe des pieds pour me regarder bien en face. Et puis après, tu as parlé volontiers. Que veux-tu, les filles sont bavardes. Je ne suis pas bavarde, je suis méchante. Sûre? Sûre comme Dieu me voit. De son pouce noirci d'encre, elle s'est signée le front, les lèvres. Je me souviens de ce que vous avez dit aux autres, des bonnes paroles, des compliments. Tenez, vous appelez Zélida mon petit. Mon petit, cette grosse jument de borgne. Faut bien que ce soit vous pour penser à ça. Tu es jalouse. Elle a poussé un grand soupir en clignant des yeux comme si elle cherchait à voir au fond de sa pensée, tout au fond. Et pourtant, vous n'êtes pas beau, a-t-elle dit entre ses dents, avec une gravité inimaginable. C'est seulement parce que vous êtes triste. Même quand vous souriez, vous êtes triste. Il me semble que si je comprenais pourquoi vous êtes triste, je ne serais plus jamais mauvaise. « Je suis triste, lui dis-je, parce que Dieu n'est pas aimé. » Elle a secoué la tête. Le ruban bleu tout crasseux qui tient sur le haut du crâne ses pauvres cheveux s'était dénoué, flottait drôlement à la hauteur de son menton. Évidemment, ma phrase lui paraissait obscure, très obscure. Mais elle n'a pas cherché longtemps. « Moi aussi, je suis triste. C'est bon d'être triste. » Cela rachète les péchés que je me dis des fois. Tu fais donc beaucoup de péchés ?»« Dame, elle m'a jeté un regard de reproche, d'humble complicité. Vous le savez bien, c'est pas que ça m'amuse tant, les garçons. Ils ne valent pas grand-chose, si bêtes qu'ils sont, des vrais chiens fous. »«
Tu n'as pas honte ?»«
Si, j'ai honte. Avec Isabelle et Noémie, nous les retrouvons souvent là-haut, par devers la grande butte des Malicornes, la carrière de sable. On s'amuse d'abord à la glissade. C'est moi la plus vaurienne, sûr. Quand ils sont tous partis, je joue à la morte. »«
À la morte ?»«
Oui, à la morte. J'ai fait un trou dans le sable. Je m'étends là, sur le dos, bien couché, les mains croisées en fermant les yeux. Quand je bouge, si peu que ce soit, le sable me coule dans le cou, les oreilles, la bouche même. Je voudrais que ce ne fût pas un jeu, que je sois morte. Après avoir parlé à Mademoiselle Chantal, je suis resté là-bas des heures. En rentrant, papa m'a claqué. J'ai même pleuré, c'est plutôt rare. » «
Tu ne pleures donc jamais ? » «
Non. Je trouve ça dégoûtant, sale. Quand on pleure, la tristesse sort de vous, le cœur fond comme du beurre. Pouah ! Ou alors... » Elle a cligné de nouveau les paupières. « Il faudrait trouver autre chose. Une autre façon de pleurer, quoi. Vous trouvez ça bête ?»«
Non, lui dis-je. »
J'hésitais à lui répondre. Il me semblait que la moindre imprudence allait éloigner de moi à jamais cette petite bête farouche. « Un jour, tu comprendras que la prière est justement cette manière de pleurer, les seules larmes qui ne soient pas lâches. » Le mot de prière lui a fait froncer les sourcils. Son visage s'est retroussé comme celui d'un chat. Elle m'a tourné le dos et s'est éloignée en boitant très fort. « Pourquoi boites-tu ? » Elle s'est arrêtée net. Tout son corps prêt à la fuite, la tête seule tournée vers moi. Puis elle a eu ce même mouvement des épaules. Je me suis approché doucement. Elle tirait désespérément vers ses genoux sa jupe de laine grise. À travers un accroc de son bas, j'ai vu sa jambe violette. « Voilà pourquoi tu boites, » lui ai-je dit. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a sauté en arrière. Je lui ai pris la main comme au vol. En se débattant, elle a découvert un peu au-dessus du mollet une grosse ficelle liée si fort que la chair faisait deux gros bourrelets, couleur d'aubergine. Elle s'est dégagée d'un bond, sautant à cloche-pied à travers les bancs, et je ne l'ai rattrapée qu'à deux pas de la porte. Son air grave m'a imposé silence d'abord. « C'est pour me punir d'avoir parlé à Mademoiselle Chantal. J'ai promis de garder la ficelle jusqu'à ce soir. »
« Coupe cela, » lui ai-je dit.
Je lui ai tendu mon couteau. Elle a obéi sans dire mot. Mais le soudain afflux du sang a dû être terriblement douloureux, car elle a fait une affreuse grimace. Si je ne l'avais pas retenue, elle serait sûrement tombée. « Promets-moi de ne pas recommencer. » Elle a incliné la tête, toujours gravement, et elle est partie en s'appuyant de la main au mur. Que Dieu la garde. J'ai dû avoir cette nuit une hémorragie insignifiante, certes, mais qu'il ne m'est guère possible de confondre avec un saignement de nez. Comme il n'est pas raisonnable de remettre sans cesse mon voyage à Lille, j'ai écrit au docteur en lui proposant la date du 15, dans 6 jours. J'ai tenu la promesse faite à Mademoiselle Louise. Cette visite au château me coûtait beaucoup. Heureusement, j'ai rencontré Monsieur le Comte dans l'avenue. Il n'a paru nullement étonné de ma demande. On aurait dit qu'il l'attendait. Je m'y suis pris moi-même beaucoup plus adroitement que je ne l'espérais. La réponse du docteur m'est arrivée par retour du courrier. Il accepte la date fixée. Je puis être de retour dès le lendemain matin. J'ai remplacé le vin par du café noir très fort. Je m'en trouve bien. Mais ce régime me vaut des insomnies qui ne seraient pas trop pénibles, agréables même parfois, n'étaient ces palpitations de cœur assez angoissantes en somme. La délivrance de l'aube m'est toujours aussi douce. C'est comme une grâce de Dieu, un sourire. Que les matins soient bénis. Les forces me reviennent avec une espèce d'appétit. Le temps est d'ailleurs beau, sec et froid. Les prés sont couverts de gelée blanche. Le village m'apparaît bien différent de ce qu'il était en automne. On dirait que la limpidité de l'air lui enlève peu à peu toute pesanteur, et lorsque le soleil commence à décliner, on pourrait le croire suspendu dans le vide. Il ne touche plus à la terre, il m'échappe, il s'envole. C'est moi qui me sens lourd, qui pèse d'un grand poids sur le sol. Parfois, l'illusion est telle que je regarde avec une sorte de terreur, une impulsion inexplicable, mes gros souliers. Que font-ils là, dans cette lumière? Il me semble que je les vois s'enfoncer. Évidemment, je prie mieux. Mais je ne reconnais pas ma prière. Elle avait, jadis, un caractère d'imploration têtue, et même lorsque la leçon du bréviaire, par exemple, retenait mon attention, je sentais se poursuivre en moi ce colloque avec Dieu, tantôt suppliant, tantôt pressant, impérieux. Oui, j'aurais voulu lui arracher ses grâces, faire violence à sa tendresse. Maintenant, j'arrive difficilement à désirer quoi que ce soit. Comme le village, ma prière n'a plus de poids, s'envole. Est-ce un bien? Est-ce un mal? Je ne sais. Encore une petite hémorragie, un crachement de sang plutôt. La peur de la mort m'a effleuré. Oh, sans doute sa pensée me revient souvent et parfois elle m'inspire de la crainte, mais la crainte n'est pas la peur. Cela n'a duré qu'un instant. Je ne saurais à quoi comparer cette impression fulgurante, le cinglement d'une mèche de fouet à travers le cœur. Peut-être. Oh, sainte agonie! Que mes poumons soient en mauvais état, rien de plus sûr. Pourtant, le docteur Delbande m'avait soigneusement tout sculpté. En quelques semaines, la tuberculose n'a pu faire de très grands progrès. On triomphe d'ailleurs souvent de cette maladie par l'énergie, la volonté de guérir. J'ai l'une et l'autre. Fini aujourd'hui ces visites que M. le curé de Torcy appelait ironiquement « domiciliaires ». Si je ne détestais tant le vocabulaire habituel à beaucoup de mes confrères, je dirais qu'elles ont été très consolantes. Et cependant, j'avais gardé pour la fin celle dont l'issue favorable me paraissait des plus douteuses. À quoi tient cette facilité soudaine des êtres et des choses? Est-elle imaginaire? Suis-je devenu insensible à certaines menues disgrâces? Ou mon insignifiance, reconnue de tous, a-t-elle désarmé les soupçons, l'antipathie? Tout cela me semble un rêve. Peur de la mort. La seconde crise a été moins violente que la première, je crois. Mais c'est bien étrange, ce tressaillement, cette contraction de tout l'être autour de je ne sais quel point de la poitrine. Je viens de faire une rencontre. Oh, une rencontre bien peu surprenante, en somme. Dans l'état où je me trouve, le moindre événement perd ses proportions exactes, ainsi qu'un paysage dans la brume. Bref, j'ai rencontré, je crois, un ami. J'ai eu la révélation de l'amitié. Cet aveu surprendrait beaucoup de mes anciens camarades, car je passe pour très fidèle à certaines sympathies de jeunesse. Ma mémoire du calendrier, mon exactitude à souhaiter les anniversaires d'ordination, par exemple, est célèbre. On en rit. Mais ce ne sont que des sympathies. Je comprends maintenant que l'amitié peut éclater entre deux êtres avec ce caractère de brusquerie, de violence, que les gens du monde ne reconnaissent volontiers qu'à la révélation de l'amour. J'allais donc vers Mézargues, lorsque j'ai entendu, très loin derrière moi, ce bruit de sirène, ce grondement qui s'enfle et décroît tour à tour selon les caprices du vent ou les sinuosités de la route. Depuis quelques jours, il est devenu familier, ne fait plus lever la tête à personne. On dit simplement « c'est la motocyclette de Monsieur Olivier ». Une machine allemande extraordinaire qui ressemble à une petite locomotive étincelante. Monsieur Olivier s'appelle réellement Trévy Sommerange. Il est le neveu de Madame la Comtesse. Les vieux qui l'ont connu ici enfant ne tarissent pas sur son compte. Il a fallu l'engager à 18 ans, c'était un garçon très difficile. Je me suis arrêté au haut de la côte pour souffler. Le bruit du moteur a cessé quelques secondes, à cause sans doute du grand tournant de Dionne, puis il a repris tout à coup. C'était comme un cri sauvage, impérieux, menaçant, désespéré. Presque aussitôt, la crête en face de moi s'est couronnée d'une espèce de gerbe de flamme. le soleil frappant en plein sur les aciers polis, et déjà la machine plongeait au bas de la descente avec un puissant râle, remontait si vite qu'on eût pu croire qu'elle s'était élevée d'un bond. Comme je me jetais de côté pour lui faire place, j'ai cru sentir mon cœur se décrocher dans ma poitrine. Il m'a fallu un instant pour comprendre que le bruit avait cessé. Je n'entendais plus que la plainte aiguë des freins, le grincement des roues sur le sol. Puis, ce bruit a cessé lui aussi. Le silence m'a paru plus énorme que le cri. Monsieur Olivier était là devant moi, son chandail gris montant jusqu'aux oreilles, tête nue. Je ne l'avais jamais vu de si près. Il a un visage calme, attentif, et des yeux si pâles qu'on n'en saurait dire la couleur exacte. Il souriait en me regardant. « Ça vous tente, monsieur le curé ? » m'a-t-il demandé d'une voix, mon Dieu, d'une voix que j'ai reconnue tout de suite, douce et inflexible à la fois, celle de madame la comtesse. Je ne suis pas bon physionomiste, comme on dit, mais j'ai la mémoire des voix, je ne les oublie jamais, je les aime. Un aveugle que rien ne distrait doit apprendre beaucoup de choses des voix. « Pourquoi pas, monsieur ? » ai-je répondu. Nous nous sommes considérés en silence. Je lisais l'étonnement dans son regard, un peu d'ironie aussi. À côté de cette machine flamboyante, ma soutane faisait une tache noire et triste. Par quel miracle me suis-je senti à ce moment-là, jeune, si jeune ? Ah oui, si jeune ! Aussi jeune que ce triomphal matin, en un éclair j'ai vu ma triste adolescence. Non pas ainsi que les noyés repassent leur vie, dit-on, avant de se couler à pic, car ce n'était sûrement pas une suite de tableaux presque instantanément déroulés. Non. Cela était devant moi comme une personne, un être, vivant ou mort, Dieu le sait. Mais je n'étais pas sûr de la reconnaître. Je ne pouvais pas la reconnaître parce que « Oh, cela va paraître bien étrange, parce que je la voyais pour la première fois, je ne l'avais jamais vue. Elle était passée jadis, ainsi que passent près de nous tant d'étrangers dont nous eussions fait des frères et qui s'éloignent sans retour. Je n'avais jamais été jeune parce que je n'avais pas osé. Autour de moi, probablement, la vie poursuivait son cours. Mes camarades connaissaient, savouraient cet assis de printemps, alors que je m'efforçais de n'y pas penser, que je m'hébétais de travail. Les sympathies ne me manquaient pas, certes, mais les meilleurs de mes amis devaient redouter à leur insu le signe dont m'avait marqué ma première enfance, mon expérience enfantine de la misère, de son opprobre. Il eût fallu que je leur ouvrisse mon cœur, et ce que j'aurais souhaité dire était cela justement que je voulais à tout prix tenir caché. Mon Dieu, cela me paraît si simple maintenant. Je n'ai jamais été jeune, parce que personne n'a voulu l'être avec moi. Oui, les choses m'ont paru simples tout à coup. Le souvenir n'en sortira plus de moi. Ce ciel clair, la fauve brune criblée d'or, les pentes encore blanches de gel, et cette machine éblouissante qui haletait doucement dans le soleil. J'ai compris que la jeunesse est bénie, qu'elle est un risque à courir, mais ce risque même est béni, et par un pressentiment que je n'explique pas, je comprenais aussi, je savais que Dieu ne voulait pas que je mourusse sans connaître quelque chose de ce risque. Juste assez peut-être pour que mon sacrifice fût total le moment venu. J'ai connu cette pauvre petite minute de gloire. Parler ainsi à propos d'une rencontre aussi banale, cela doit paraître bien sot, je le sens. Que m'importe ? Pour n'être pas ridicule dans le bonheur, il faut l'avoir appris dès le premier âge, lorsqu'on n'en pouvait même pas balbutier le nom. Je n'aurais jamais, fût-ce une seconde, cette sûreté, cette élégance. Le bonheur ! Une sorte de fierté, d'allégresse, une espérance absurde, purement charnelle, la forme charnelle de l'espérance, je crois que c'est ce qu'ils appellent le bonheur. Enfin, je me sentais jeune, réellement jeune, devant ce compagnon aussi jeune que moi. Nous étions jeunes tous les deux. « Où allez-vous, monsieur le curé ?»« À Mézargues. »« Vous n'êtes jamais monté là-dessus »« J'ai éclaté de rire. Je me disais que 20 ans plus tôt, rien qu'à caresser de la main, comme je le faisais, le long réservoir tout frémissant des lentes pulsations du moteur, je me serais évanoui de plaisir. Et pourtant, je ne me souvenais pas d'avoir, enfant, jamais osé seulement désirer posséder un de ces jouets. Fabuleux pour les petits pauvres, un jouet mécanique, un jouet qui marche. Mais ce rêve était sûrement au fond de moi intact. Et il remontait du passé, il éclatait tout à coup dans ma pauvre poitrine malade, déjà touchée par la mort peut-être. Il était là-dedans comme un soleil. « Par exemple, a-t-il repris, vous pouvez vous vanter de m'épater, ça ne vous fait pas peur ?»« Oh non, pourquoi voulez-vous que ça me fasse peur ?»« Pour rien. » « Écoutez, lui dis-je, d'ici à Mézargues, je crois que nous ne rencontrerons personne. Je ne voudrais pas qu'on se moquât de vous. »« C'est moi qui suis un imbécile, » a-t-il répondu après un silence. J'ai grimpé tant bien que mal sur un petit siège assez mal commode, et presque aussitôt, la longue descente à laquelle nous faisions face apparut bondir derrière nous, tandis que la haute voix du moteur s'élevait sans cesse jusqu'à ne plus donner qu'une seule note d'une extraordinaire pureté. Elle était comme le chant de la lumière, elle était la lumière même, et je croyais suivre des yeux, dans sa courbe immense, sa prodigieuse ascension. Le paysage ne venait pas à nous, il s'ouvrait de toutes parts, et un peu au-delà du glissement hagard de la route, tournait majestueusement sur lui-même, ainsi que la porte d'un autre monde. J'étais bien incapable de mesurer le chemin parcouru, ni le temps. Je sais seulement que nous allions vite, très vite, de plus en plus vite. Le vent de la course n'était plus, comme au début, l'obstacle auquel je m'appuyais de tout mon poids. Il était devenu un couloir vertigineux, un vide entre deux colonnes d'air brassées à une vitesse foudroyante. Je les sentais rouler à ma droite et à ma gauche, pareil à deux murailles liquides, et lorsque j'essayais d'écarter le bras, il était plaqué à mon flanc par une force irrésistible. Nous sommes arrivés ainsi au virage de Mézargues. Mon conducteur s'est retourné une seconde. Perché sur mon siège, je le dépassais des épaules. Il devait me regarder de bas en haut. « Attention !» m'a-t-il dit. Les yeux riaient dans son visage tendu. L'air dressait ses longs cheveux blonds tout droit sur sa tête. J'ai vu le talus de la route foncer vers nous, puis fuir brusquement d'une fuite oblique éperdue. L'immense horizon a vacillé deux fois, et déjà, nous plongions dans la descente de Gesvres. Mon compagnon m'a crié je ne sais quoi. J'ai répondu par un rire. Je me sentais heureux, délivré, si loin de tout. Enfin, j'ai compris que ma mine le surprenait un peu, qu'il avait cru probablement me faire peur. Mézargues était derrière nous. Je n'ai pas eu le courage de protester. Après tout, pensais-je, il ne me faut pas moins d'une heure pour faire la route à pied. J'y gagne encore. Nous sommes revenus au presbytère plus sagement. Le ciel s'était couvert, il soufflait une petite bise aigre. J'ai bien senti que je m'éveillais d'un rêve. Par chance, le chemin était désert, nous n'avons rencontré que la vieille Madeleine qui liait des fagots. Elle ne s'est pas retournée. Je croyais que M. Olivier allait pousser jusqu'au château, mais il m'a demandé gentiment la permission d'entrer. Je ne savais que lui dire. J'aurais donné Dieu sait quoi pour pouvoir le régaler un peu, car rien n'ôtera de la tête d'un paysan comme moi que le militaire a toujours faim et soif. Naturellement, je n'ai pas osé lui offrir de mon vin, qui n'est plus qu'une tisane boueuse peu présentable. Mais nous avons allumé un grand feu de fagots et il a bourré sa pipe. « Dommage que je parte demain, nous aurions pu recommencer. »« L'expérience me suffit, » ai-je répondu. « Les gens n'aimeraient pas trop voir leur curé courir sur les routes à la vitesse d'un train express. D'ailleurs, je pourrais me tuer. »« Vous avez peur de ça ?»« Oh non, enfin, guère. Mais que penserait monseigneur ?»« Vous me plaisez beaucoup, » m'a-t-il dit. Nous aurions été amis. Votre ami? Moi? Sûr, et ce n'est pourtant pas faute d'en savoir long sur votre compte. Là-bas, on ne parle que de vous. Mal? plus tôt. Ma cousine est enragée. Une vraie Sommerange, celle-là.
Que voulez-vous dire ?
Eh bien, moi aussi je suis Sommerange, avide et dur, jamais satisfait de rien, avec on ne sait quoi d'intraitable qui doit être chez nous la part du diable, qui nous fait terriblement ennemis de nous-mêmes, au point que nos vertus ressemblent à nos vices, et que le bon Dieu lui-même aura du mal à distinguer des mauvais garçons les saints de la famille, si par hasard il en existe. La seule qualité qui nous soit commune est de craindre le sentiment comme la peste. Détestant de partager avec autrui nos plaisirs, nous avons du moins la loyauté de ne pas l'embrasser de nos peines. C'est une qualité précieuse à l'heure de la mort, et la vérité m'oblige à dire que nous mourrons assez bien. Voilà, vous en savez désormais autant que moi. Tout ça ensemble fait des soldats passables. Malheureusement, le métier n'est pas encore ouvert aux femmes, en sorte que les femmes de chez nous bigrent. Ma pauvre tante leur avait trouvé une devise, « Tout ou rien ». Je lui disais un jour que cette devise ne signifiait pas grand-chose, à moins qu'on ne lui donnât le caractère d'un pari. Et ce pari-là, on ne peut le faire sérieusement qu'à l'heure de la mort, pas vrai ? Personne des nôtres n'est revenu pour nous apprendre s'il a été tenu ou non, et par qui.
Je suis sûr que vous croyez en Dieu.
Chez nous, m'a-t-il répondu, c'est une question qu'on ne pose pas. Nous croyons tous en Dieu, tous, jusqu'au pire. Les pires plus que les autres, peut-être. Je pense que nous sommes trop orgueilleux pour accepter de faire le mal sans aucun risque. Il y a toujours ainsi un témoin à affronter, Dieu. Ces paroles auraient dû me déchirer le cœur, car il était facile de les interpréter comme autant de blasphèmes, et pourtant elles ne me causaient aucun trouble.
Il n'est pas si mauvais d'affronter Dieu, lui dis-je. Cela force un homme à s'engager à fond, à engager à fond l'espérance, toute l'espérance dont il est capable. Seulement, Dieu se détourne parfois. Il me fixait de ses yeux pâles.
Mon oncle vous tient pour un sale petit curé de rien, et il prétend même que vous...
Le sang m'a sauté au visage.
Je pense que son opinion vous est indifférente. C'est le dernier des imbéciles. Quant à ma cousine...
N'achevez pas, je vous en prie, ai-je dit.
Je sentais mes yeux se remplir de larmes. Je ne pouvais pas grand-chose contre cette soudaine faiblesse, et ma terreur d'y céder malgré moi était telle qu'un frisson m'a pris. J'ai été m'accroupir au coin de la cheminée dans les cendres. C'est la première fois que je vois ma cousine exprimer un sentiment avec cette... D'ordinaire, elle oppose à toute indiscrétion, même frivole, un front d'airain.
Parlez plutôt de moi.
Oh, vous, n'était-ce fourreau noir, vous ressemblez à n'importe lequel d'entre nous autres. J'ai vu ça au premier coup d'œil.
Je ne comprenais pas. Je ne comprends d'ailleurs pas encore.
Vous ne voulez pas dire que... Ma foi, si, je veux le dire. Mais vous ignorez peut-être que je sers au régiment étranger.
Au régiment ?
À la Légion, quoi ? Le mot me dégoûte depuis que les romanciers l'ont mis en la mode.
« Voyons un prêtre, » ai-je balbutié.
« Des prêtres ? Ce n'est pas les prêtres qui manquent là-bas. Tenez, l'ordonnance de mon commandant était un ancien curé du Poitou. Nous ne l'avons su qu'après. »
« Après ? »
« Après sa mort, parbleu. »
« Et comment est-il
mort ? Dame, sur un mulet de bas, ficelé comme un saucisson, il avait une balle dans le ventre. »
Ce n'est pas ce que je vous demande.
Écoutez, je ne veux pas vous mentir, les garçons aiment à crâner dans ce moment-là. Ils ont deux ou trois formules qui ressemblent assez à ce que vous appelez des blasphèmes, soyons francs.
Quelle horreur !
Il se passait en moi quelque chose d'inexplicable. Dieu sait que je n'avais jamais beaucoup songé à ces hommes durs, à leur vocation terrible, mystérieuse, car pour tous ceux de ma génération, le nom de soldat n'évoque que l'image banale d'un civil mobilisé. Je me souviens de ces permissionnaires qui nous arrivaient chargés de musettes et que nous revoyions le même soir déjà vêtus de velours, des paysans comme les autres. Et voilà que les paroles d'un inconnu éveillaient tout à coup en moi une curiosité inexprimable. Il y a blasphème et blasphème, poursuivait mon compagnon de sa voix tranquille, presque dure. Dans l'esprit des bons hommes, il prononçait bonhomme. C'est une manière de couper les ponts derrière eux. Ils en ont l'habitude. Je trouve ça idiot, mais pas sale. Hors la loi en ce monde, ils se mettent eux-mêmes hors la loi dans l'autre. Si le bon Dieu ne sauve pas les soldats, tous les soldats, parce que soldats, inutile d'assister. Un blasphème de plus pour faire bonne mesure, courir la même chance que les camarades, éviter l'acquittement à la minorité de faveur, quoi. Et puis, quoique, c'est toujours la même devise en somme. Tout ou rien. Vous ne trouvez pas? Parions que vous-même...
Moi?
Oh, bien sûr, il y a une nuance. Cependant, si vous vouliez seulement vous regarder...
Me regarder?
Il n'a pu s'empêcher de rire. Nous avons ri ensemble, comme nous avions ri un moment plus tôt, là-bas, sur la route dans le soleil. Je veux dire que si votre visage n'exprimait pas... Il s'est arrêté. Mais ses yeux pâles ne me déconcertaient plus. J'y lisais très bien sa pensée. « L'habitude de la prière, je suppose, » a-t-il repris. « Dame, ce langage ne m'est pas trop familier. »«
La prière. »«
L'habitude de la prière. »« Hélas, si vous saviez, je prie très mal. » Il a trouvé une réponse étrange qui m'a fait beaucoup réfléchir depuis. L'habitude de la prière, cela signifie plutôt pour moi la préoccupation perpétuelle de la prière, une lutte, un effort. C'est la crainte incessante de la peur de la peur qui modèle le visage de l'homme brave. Le vôtre, permettez-moi, semble usé par la prière. Cela fait penser à un très vieux missel ou encore à ces figures effacées tracées au burin sur les dalles des gisants. N'importe. Je crois qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que ce visage fût celui d'un hors-la-loi dans notre genre. D'ailleurs, mon oncle dit que vous manquez du sens de la vie sociale. Avouez-le, notre ordre n'est pas le leur.
Je ne refuse pas leur ordre, ai-je répondu.
Je lui reproche d'être sans amour. Nos garçons n'en savent pas si long que vous. Ils croient Dieu solidaire d'une espèce de justice qu'ils méprisent, parce que c'est une justice sans honneur.
L'honneur lui-même, commençai-je.
Oh, sans doute un honneur à leur mesure, si fruste qu'elle paraisse à vos casuistes. Leur loi a du moins le mérite de coûter cher, très cher. Elle ressemble à la pierre du sacrifice, rien qu'un caillou, à peine plus gros qu'un autre caillou, mais toute ruisselante du sang lustral. Bien entendu, notre cas n'est pas clair, et nous donnerions aux théologiens du fil à retordre si ces docteurs avaient le temps de s'occuper de nous. Reste qu'aucun d'eux n'oserait soutenir que, vivant ou mort, nous appartenions à ce monde sur lequel tombe à plein, depuis 20 siècles, la seule malédiction de l'Évangile. Car la loi du monde est le refus, et nous ne refusons rien, pas même notre peau. Le plaisir, et nous ne demandons à la débauche que le repos et l'oubli, ainsi qu'à un autre sommeil. La soif de l'or. Et la plupart d'entre nous ne possèdent même pas la défroque immatriculée dans laquelle on les met en terre. Convenez que cette pauvreté-là peut soutenir la comparaison avec celle de certains moines à la mode spécialisés dans la prospection des âmes rares.
Écoutez, lui dis-je, il y a le soldat chrétien.
Ma voix tremblait comme elle tremble chaque fois qu'un signe indéfinissable m'avertit que, quoi que je fasse, mes paroles apporteront, selon que Dieu voudra, la consolation ou le scandale. Le chevalier, a-t-il répondu avec un sourire. Au collège, les bons pères ne juraient encore que par son aume et sa targue. On nous donnait la chanson de Roland pour l'Iliade française. Évidemment, ces fameux prud'hommes n'étaient pas ce que pensent les demoiselles. Mais quoi, il faut les voir tels qu'ils se présentaient à l'ennemi, écu contre écu, coude à coude. Il valait ce que valait la haute image à laquelle ils s'efforçaient de ressembler. Et cette image-là, ils ne l'ont empruntée à personne. Nos races avaient la chevalerie dans le sang. L'Église n'a eu qu'à bénir. Soldats, rien que soldats, voilà ce qu'ils furent, le monde n'en a pas connu d'autres. Protecteurs de la cité, ils n'en étaient pas les serviteurs. Ils traitaient d'égal à égal avec elle. La plus haute incarnation militaire du passé, celle du soldat-laboureur de l'ancienne Rome, ils l'ont comme effacée de l'histoire. Oh, sans doute ils n'étaient pas tous ni justes ni purs. Ils n'en représentaient pas moins une justice, une sorte de justice qui, depuis les siècles des siècles, hante la tristesse des misérables ou, parfois, remplit leurs rêves. Car enfin, la justice entre les mains des puissants n'est qu'un instrument de gouvernement comme les autres. Pourquoi l'appelle-t-on justice? Disons plutôt l'injustice, mais calculée, efficace, basée tout entière sur l'expérience effroyable de la résistance du faible, de sa capacité de souffrance, d'humiliation et de malheur. L'injustice, maintenue à l'exact degré de tension qu'il faut pour que tournent les rouages de l'immense machine à fabriquer les riches, sans que la chaudière n'éclate. Et voilà que le bruit a couru, un jour, par toute la terre chrétienne, qu'allait surgir une sorte de gendarmerie du Seigneur Jésus. Un bruit qui court, ce n'est pas grand-chose, soit. Mais tenez, lorsqu'on réfléchit au succès fabuleux, ininterrompu, d'un livre comme le Don Quichotte, on est forcé de comprendre que, si l'humanité n'a pas encore fini de se venger par le rire de son grand espoir déçu, c'est qu'elle l'avait porté longtemps, qu'il était entré bien profond. Redresseur de tort, redresseur de leurs mains de fer. Vous aurez beau dire, ces hommes-là frappaient un coup pesant. Ils ont forcé un grand coup, vos consciences. Aujourd'hui encore, des femmes paient très cher le droit de porter leur nom, leur pauvre nom de soldat, et les naïves allégories dessinées jadis sur leurs écus par quelques clercs maladroits font rêver les maîtres opulents du charbon, de la houille ou de l'acier. Vous ne trouvez pas ça comique ? Non, lui dis-je. Moi, si. C'est tellement drôle de penser que les gens du monde croient se reconnaître dans ces hautes figures, par-dessus 700 ans de domesticité, de paresse et d'adultère. Mais ils peuvent courir. Ces soldats-là n'appartenaient qu'à la chrétienté. La chrétienté n'appartient plus à personne. Il n'y a plus, il n'y aura plus jamais de chrétienté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de soldats, plus de soldats, plus de chrétienté. Oh, vous me direz que l'Église lui survit, que c'est le principal, bien sûr. Seulement, il n'y aura plus de royaume temporel du Christ, c'est fini. L'espoir en est mort avec nous. Avec vous? M'écriai-je. Ce ne sont pas les soldats qui manquent. Des soldats? Appelez ça des militaires. Le dernier vrai soldat est mort le 30 mai 1431. Et c'est vous qui l'avez tué, vous autres. Pique tué, condamné, retranché, puis brûlé. Nous en avons fait aussi une sainte? Dites plutôt que Dieu l'a voulu. Et s'il l'a élevé si haut, ce soldat, c'est justement parce qu'il était le dernier. Le dernier d'une telle race ne pouvait être qu'un saint. Dieu a voulu encore qu'il fût une sainte. Il a respecté l'antique pacte de chevalerie. La vieille épée jamais rendue repose sur des genoux que le plus fier des nôtres ne peut qu'embrasser en pleurant. J'aime ça. Vous savez, ce rappel discret du cri des tournois « Honneur aux dames !» Il y a de quoi faire loucher la rancune de vos docteurs qui se méfient tant des personnes du sexe, hein? La plaisanterie m'aurait fait rire, car elle ressemble beaucoup à celle que j'ai entendue tant de fois au séminaire, mais je voyais que son regard était triste, d'une tristesse que je connais, et cette tristesse-là m'atteint comme au vif de l'âme. J'éprouve devant elle une sorte de timidité stupide, insurmontable. Que reprochez-vous donc aux gens d'église? Et je finis par dire bêtement. Moi? Oh, pas grand-chose. De nous avoir laïcisés. La première vraie laïcisation a été celle du soldat. Elle ne date pas d'hier. Quand vous pleurnichez sur les excès du nationalisme, vous devriez vous souvenir que vous avez fait jadis risette aux légistes de la Renaissance, qui mettaient le droit chrétien dans leur poche et reformait patiemment sous votre nez, à votre barbe, l'État païen, celui qui ne connaît d'autre loi que celle de son propre salut, les impitoyables patries pleines d'avarice et d'orgueil. Écoutez, lui dis-je, Je ne connais pas grand-chose à l'histoire, mais il me semble que l'anarchie féodale avait ses risques.
Oui, sans doute. Vous n'avez pas voulu les courir. Vous avez laissé la chrétienne inachevée. Elle était trop lente à se faire. Elle coûtait gros, rapportait peu. D'ailleurs, n'aviez-vous pas jadis construit vos basiliques avec les pierres des temples? Un nouveau droit, quand le code Justinien restait comme à portée de la main? L'État contrôlant tout et l'Église contrôlant l'État. Cette formule élégante devait plaire à vos politiques. Seulement nous étions là, nous autres. Nous avions nos privilèges et par-dessus les frontières, notre immense fraternité. Nous avions même nos cloîtres, des moines soldats. C'était de quoi réveiller les proconsuls dans leur tombe. Et vous non plus, vous ne faisiez pas fier. L'honneur du soldat, vous comprenez, ça ne se prend pas au trébuchet des casuistes. Il n'y a qu'à lire le procès de Jeanne d'Arc. Sur la foi jurée à vos saintes, sur la fidélité au suzerain, sur la légitimité du roi de France, rapportez-vous-en à nous, disait-il. Nous vous relevons de tout. Je ne veux être relevé de rien, s'écriait-elle. Alors, nous allons vous damner? Elle aurait pu répondre, je serai donc damné avec mon serment, car notre loi était le serment. Vous aviez béni ce serment, mais c'est à lui que nous appartenions, pas à vous. N'importe. Vous nous avez donné à l'État qui nous arme, nous habille et nous nourrit, prend aussi notre conscience en charge. Défense de juger, défense même de comprendre. Et vos théologiens approuvent comme de juste. Ils nous concèdent, avec une grimace, la permission de tuer n'importe où, n'importe comment, de tuer par ordre, comme au bourreau. Défenseurs du sol, nous réprimons aussi l'émeute, et lorsque l'émeute a vaincu, nous la servons à son tour. Dispense de fidélité. À ce régime-là, nous sommes devenus des militaires. Et si parfaitement militaire que, dans une démocratie accoutumée à toutes les servilités, celle des généraux ministres réussit à scandaliser les avocats. Si exactement, si parfaitement militaire qu'un homme de grande race comme Lyautey a toujours repoussé ce nom infamant. Et d'ailleurs, il n'y aura bientôt plus de militaires. De 7 à 60 ans, tous quoi? Au juste. L'armée même devient un mot vide de sens lorsque les peuples se jettent les uns sur les autres. Les tribus d'Afrique, quoi. Des tribus de 100 millions d'hommes. Et le théologien, de plus en plus dégoûté, continuera de signer des dispenses. Des formules imprimées, je suppose, rédigées par les rédacteurs du ministère de la Conscience nationale. Mais où s'arrêteront-ils entre nous, vos théologiens? Les meilleurs tueurs, demain, tueront sans risque, à 30 000 pieds au-dessus du sol, n'importe quelle saleté d'ingénieur bien au chaud dans ses pantoufles, entouré d'ouvriers spécialistes, n'aura qu'à tourner un bouton pour assassiner une ville et reviendra dardard avec la seule crainte de rater son dîner. Évidemment, personne ne donnera à cet employé le nom de soldat. Mérite-t-il même celui de militaire? Et vous autres qui refusiez la terre sainte aux pauvres cabotins du XVIIe siècle, comment l'enterrerez-vous? Notre profession est-elle donc tellement avilie que nous ne puissions absolument plus répondre d'un seul de nos actes? Que nous partagions l'affreuse innocence de nos mécaniques d'acier? Allons donc. Le pauvre diable qui bouscule sa bonne amie sur la mousse, un soir de printemps, est tenu par vous en état de péché mortel. Et le tueur de ville, alors que les gosses qu'il vient d'empoisonner achèveront de vomir leurs poumons dans le giron de leur mère, n'aura qu'à changer de culotte et ira donner du pain bénit? Farceur que vous êtes, inutile de faire semblant de traiter avec les Césars. La cité antique est morte. Elle est morte comme ses dieux. Et les dieux protecteurs de la cité moderne, on les connaît. Ils dînent en ville. Ils s'appellent des banquiers. Rédigez autant de concordats que vous voudrez. Hors de la chrétienté, il n'y a de place en Occident ni pour la patrie, ni pour le soldat. Et vos lâches complaisances auront bientôt achevé de laisser déshonorer l'une et l'autre. Il s'était levé, m'enveloppait en parlant de son regard étrange,
d'un bleu toujours aussi pâle, mais qui, dans l'ombre, paraissait doré. Il a jeté rageusement sa cigarette dans les cendres. « Moi, je m'en fous, » a-t-il repris. « Je serai tué avant. » Chacune de ces paroles m'avait remué jusqu'au fond du cœur. Hélas, Dieu s'est remis entre nos mains. Son corps et son âme, le corps, l'âme, l'honneur de Dieu dans nos mains sacerdotales, et ce que ces hommes-là prodiguent sur toutes les routes du monde, saurions-nous seulement mourir comme eux, me disais-je. Un moment, j'ai caché mon visage. J'étais épouvanté de sentir les larmes couler entre mes doigts. Pleurer devant lui comme un enfant, comme une femme. Mais notre Seigneur m'a rendu un peu de courage. Je me suis levé, j'ai laissé tomber mes bras et d'un grand effort, le souvenir m'en fait mal, je lui ai offert ma triste figure, mes honteuses larmes. Il m'a regardé longtemps. Oh, l'orgueil est encore en moi bien vivace. J'épiais un sourire de mépris, du moins de pitié sur ses lèvres volontaires. Je craignais plus sa pitié que son mépris. « Vous êtes un chic garçon, » m'a-t-il dit. « Je ne voudrais pas un autre curé que vous à mon lit de mort. » Et il m'a embrassé, à la manière des enfants, sur les deux joues.